France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Pardon, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a des photographies tonitruantes, disait Roland Barthes, et d'autres nimbées d'un grand silence. Celles-ci nous rappellent que la prise de vue, c'est-à-dire l'acte qui consiste à rendre le monde visible, exige qu'un instant, furtivement, on ferme les yeux. Comment tirer le portrait de la mafia italienne pendant les années de sang ? Tel fut le combat d'une artiste exemplaire, au courage presque antique, dont le nom même grondait de cet espoir batailleur, Letizia Battaglia. Elle est morte en 2022. On lui consacre aujourd'hui exposition, livres et documentaires. Jusqu'en 1992, elle avait photographié les corps assassinés des victimes de Cosa Nostra à Palerme afin de documenter l'ampleur du massacre. Mais le 23 mai 1992 fait rupture. Le juge Falcone, son épouse et trois de ses gardes du corps meurent pulvérisés dans l'explosion de leur voiture. Sur l'autoroute qui mène de l'aéroport à Palerme, un immense cratère. « Le monde a basculé », écrit Roberto Saviano dans son dernier livre traduit en français « Giovanni Falcone ».« Le monde a basculé, il est sur le dos comme une tortue agonisante ». Quelques jours plus tard, Letizia Battaglia donne un visage à cette bascule entre désespoir et résistance. Celui de Rosaria Costa Schifani, jeune veuve d'un des policiers d'escorte assassiné. Un si beau visage violemment découpé entre l'ombre et la lumière. Rosaria ferme les yeux et Letizia Battaglia ne photographiera plus jamais des cadavres, mais des femmes en lutte à Palerme et ailleurs. Allons-y voir avec Cécile Allegra, Charlotte Moge et Walter Guadagnini, puisque, ainsi que le disait Letizia Battaglia en 1992, « Ora basta, ça suffit ».
J'ai commencé à faire la photographie pour gagner la vie. Mais puisque j'habitais à Palerme, la chronique c'était aussi la mafia. Et alors, en voyant ces photos, tous ensemble, monter chez nous, dans nous, une douleur très profonde, une volonté de ça suffit, ça suffit.
C'était en juin 1992, à l'occasion de la nuit de la photographie à Lausanne. Cécile Allegra, bonjour.
Bonjour.
Votre travail de documentariste et de grand reporter vous a mené sur beaucoup de théâtres de guerre, au Darfour, en Indonésie ou en Haïti. Un reportage sur les Érythréens au Sinaï vous a valu le prix Albert Londres en 2015, pour y filmer l'injustice, donner à voir ceux qui souffrent et ceux qui en profitent. Vous avez réalisé plusieurs documentaires sur l'Italie et la mafia, et celui de 52 minutes intitulé « Letizia Battaglia, photographe des années de sang », produit par Nilaya pour France 5, est toujours disponible sur les plateformes. C'est le portrait d'une femme en colère, enfin en rage au sens de Pasolini au fond.
Oui, c'est le portrait d'une femme résistante et c'était vraiment ça l'intention, parce que le cinéma documentaire et de fiction que j'essaye de proposer est un cinéma qui raconte des histoires de résistance et il en faut en ce moment.
Bonjour Charlotte Moge.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en études italiennes à l'université Jean Moulin Lyon 3 et votre thèse soutenue en 2015 portait sur la construction d'une mémoire politique de la lutte contre la mafia de 1982 à 2012 à partir de ce que vous appelez un martyrologe, ceux des juges assassinés, La Torre, della Chiesa, Falcone et Borsellino. C'est des histoires de résistance aussi puisque par la mémoire de cette lutte contre la mafia, aujourd'hui encore, au fond, ce sont les martyrs, comme vous dites, sont des figures de la résistance.
Oui, ce sont devenus des figures de la résistance et qui surtout ont peu à peu habité, un peu investi un imaginaire républicain, ce qui n'était vraiment pas donné à la base. Donc en étudiant cette mémoire de l'antimafia, on a pu voir comment on est passé d'un problème local à un problème national.
Walter Gualaghini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique d'art, spécialiste de l'histoire de la photographie et directeur artistique de Camera, le centre italien pour la photographie de Turin. Et vous êtes au téléphone depuis Turin. Vous êtes le commissaire de la rétrospective que le musée du Jeu de Paume de Paris a exposée au château de Tours. Elle s'est achevée le 25 mai, mais une partie sera visible aux rencontres de la photographie d'Arles. Et signalons également l'apparition d'un beau livre consacré à la photographe chez Actes Sud. Du point de vue de l'histoire de la photographie, parce qu'on va aussi en parler, pour vous, Laetitia Battaglia, elle se met dans la lignée de peut-être de Salgado, des grands photographes qui ont ouvert nos yeux sur le monde.
Oui, je crois que Laetitia Battaglia fait partie de la grande tradition du photoreportage et plus spécifiquement du photoreportage engagé. En effet, c'est une photo qui veut témoigner ce qui se passe et même ce qui se passe des choses les plus cruelles, les plus agaçantes de la vie et qui ont un engagement politique très clair dans ces salles. Même la nature de la photo de Laetitia Battaglia.
Alors, on va en parler de ces photographies. Il y en a énormément et de beaucoup plus de sujets qu'on le pense. Mais toutes et tous, vous avez souhaité qu'on commence par cette figure de résistance presque iconique. Donc, ce visage de la très jeune veuve. Je l'ai décrit un petit peu au début, mais qu'est-ce que vous pourriez ajouter, Cécile Allegra?
Alors, Rosaria Schifani, donc la femme de Vito Schifani, qui a sauté sur cette autoroute quand même, hein, 500 kilos de TNT, pour faire sauter une voiture et son escorte.
C'est un cratère, c'est un cratère qui a été enregistré par tous les sismographes de l'Italie comme une secousse tellurique. En
absolument, fait. Et puis qui a comme intention de marquer. Donc là, il y a vraiment une pensée de l'image dans la tragédie. Et elle est appelée aux funérailles de Falcone et des agents de l'escorte, donc de son mari. Elle est appelée à l'hôtel pour lire un texte où on lui demande de dire qu'il faut qu'elle pardonne les bourreaux de cet assassinat. Et se tient près d'elle un évêque qui essaye de lui faire lire le texte et de faire en sorte qu'elle s'y tienne. Et cette femme va marquer l'Italie entière parce que à ce moment-là, elle se dérobe alors qu'elle est faible et clairement en pleurs. Mmh. Et elle dit « Moi, je ne peux leur pardonner que s'ils demandent pardon. Et ils ne vont jamais demander pardon parce qu'ils n'en sont pas capables. »
Alors, dans le film, dans votre beau film, il y a cette figure extraordinaire de juge Roberto Scarpinato qui fait voir l'image et qui la décrit ainsi.
Cette photo
est une photo qui représente
montre l'épouse d'un des agents de l'escorte de Giovanni Falcone, tué lors du massacre de Capaci le 23 mai 1992. À l'église, pendant les funérailles, elle est invitée à lire un texte. Ce texte disait qu'il fallait pardonner aux mafieux car ils pouvaient changer. Et elle refuse le texte et elle dit
« Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. »
C'est un moment clé, hein, Charlotte Moche. C'est un moment clé, Cécile Allegra l'a dit, dans la prise de conscience à Palerme et en Italie d'une manière générale. Peut-être faut-il aussi recontextualiser. On est dans ce moment dont vous êtes l'historienne de la seconde guerre de la mafia après les maxi-procès à Palerme de Falcone et Borsellino.
Oui, alors la Seconde Guerre, c'était dans les années 70-80. Après, il y a eu le maxi-procès. Après, en 92, il y a ce qu'on appelle la saison des massacres, c'est-à-dire les assassinats de Falcone et Borsellino, qui ouvrent une période et qui, au niveau républicain, au niveau national, se superpose avec la période de la transition républicaine, puisqu'en 92, on a l'opération Main Propre, donc on a toute la classe politique qui est décimée par ces révélations sur la corruption.
À ce moment-là, il n'y a pas de gouvernement, enfin c'est...
Voilà, on est en gouvernement technique, spécialité républicaine, spécialité italienne, mais donc on est donc dans une période de transition presque institutionnelle, hein. C'est vraiment très très fort. Et on a les attentats contre Falcone d'abord, puis Borsellino vont cristalliser un ressentiment, une rupture vraiment entre une partie de la société civile de plus en plus large et les représentants politiques. Et les funérailles de Falcone et de son escorte et de son épouse évidemment sont un moment de bascule où on a justement ce rejet de la classe politique, cette rupture qui a lieu. Et Rosaria Schifani, quand elle prend la parole, elle est, alors le prêtre dont on a parlé, en fait c'est son cousin, oui, qui essaye de lui faire lire ce texte et qu'elle corrige au fur et à mesure. Et en fait, elle incarne la douleur de toute une ville, de toute une communauté et de toute la nation. Donc c'est pour ça que c'est si fort.
Cécile Allégrin.
Oui, moi je suis italienne, donc je pense que comme tout Italien, en fait tout Italien a la mémoire de ce 23 mai, sait où est-ce qu'il était quand il a reçu la nouvelle, quelle a été sa réaction. Et en fait, cette réaction de Rosaria Schifani est un encouragement, disons, aux Italiens. Parce que c'est ça, quand on a partagé la douleur en la voyant refuser de dire ces mots, et en même temps, on a adhéré à cette révolte. Et donc, vraiment sur un plan de l'émotion qui crée l'opinion publique et qui va créer une mémoire aussi, qui peut engendrer une rupture, ce discours est fondamental.
Laetitia Battaglia, on va y revenir, elle décide ce jour-là, le 23 mai, de ne pas aller à la morgue, de ne plus photographier, au fond, les corps assassinés des juges. Elle va photographier les funérailles et quelques jours plus tard, elle va effectivement photographier Rosaria. Écoutez, c'était le second extrait toujours de votre documentaire et c'est toujours Roberto Scarpinato qui parle.
Jung disait, pour passer de l'obscurité à la lumière, il faut la force et la puissance d'une émotion. Cette photo, où coexistent ombre et lumière, est une métaphore. Car malgré nos enquêtes, nous n'avons réussi à révéler que les noms des bouchers, des exécutants, aux mains maculées du sang des massacres. Mais les donneurs d'ordre, les complices extérieurs, sont restés dans l'ombre. Les services secrets ont fait disparaître des documents qui étaient dans la villa du chef mafieux Salvatore Riina et l'agenda où Paolo Borsellino prenait des notes très importantes. Ce pouvoir malade voulait encore instrumentaliser la douleur des victimes. En face se dresse une femme brisée qui dit « Non, ils changeront pas, il n'y a pas d'amour. »
France Culture, allons y voir. Patrick Boucheron.
Walter Guadagini, donc vous êtes, je l'ai dit, le commissaire de l'exposition sur Laetitia Battaglia qu'on a vu au château de Tours, qu'on verra à Arles. Évidemment, ce portrait y a une grande place. Et si on l'évoque pour saisir d'ailleurs sa portée mémorielle, il faut aussi l'analyser esthétiquement sur l'ombre et la lumière, justement, qui est quand même une des grands traits de la photographie de Laetitia Battaglia. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ce contraste violent entre une partie de son visage qui est dans le noir et l'autre éclairée, mais les yeux fermés?
Mais d'un côté, je pourrais dire que je suis d'accord avec tous les gens qui ont parlé jusqu'à maintenant. Il n'y a pas beaucoup à ajouter, je voudrais dire, mais j'aime considérer aussi cette image comme une métaphore de la photo de Laetitia Battaglia, c'est-à-dire qui est une photo de contraste, c'est une photo immédiate. On comprend immédiatement ce qu'elle veut communiquer, parce que c'est une photo qui veut communiquer directement à son public. Il faut se rappeler qu'elle travaillait pour les journaux, donc c'est une type de une mode de photographie qui doit immédiatement arriver au lecteur. Et ça, c'est même dans cette image. Et cette image, c'est en effet les noirs et blancs. Elle a toujours travaillé en noir et blanc, pas seulement pour un choix esthétique, mais c'est un choix éthique aussi, faire voir les ombres et les lumières. C'est important aussi parce que c'est, on pourrait dire que c'est sa dernière photo de mafia.
Oui.
En effet. Et donc, on comprend très bien que c'est absolument la synthèse de tout son travail sur la mafia. Et c'est en même temps le moment dans lequel on peut voir aussi sa partie lumineuse. Alors, il a toujours été présent dans son travail. Hein.
Ah oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a tout ce travail sur les petites filles dans l'obscurité, mais au même moment, et plus tard encore, elle va photographier les fêtes à Palerme. C'est la vie même, au fond, qui vibre sous l'objectif de Laetitia Battaglia, Cécile Allégrin.
Oui, il faut jamais oublier que Laetitia Battaglia était une femme qui avait fait un long parcours en psychanalyse. Et donc, elle s'interrogeait beaucoup sur ce qu'elle allait... c'était une photographe instinctive et en même temps, parce qu'elle le dit elle-même, qu'elle n'était pas très bonne techniquement, mais en même temps, elle avait cet instinct d'aller se placer au bon moment. Et donc, quand on parle d'une photographie qui fait la synthèse d'années de l'Italie, faire le choix de photographier quelqu'un qui a les yeux fermés et en faire le point d'orgue d'une carrière, c'est un peu, pour paraphraser Scarpinato, la
qui
théorie
était psychanalyste
du...
aussi. Au départ. Hein. Et d'ailleurs, on l'entend bien.
Jung, moi je dirais Lacan, hein, la théorie du regard. Et donc, il dit simplement que l'œil seul ne peut pas voir et qu'on voit à partir de son propre inconscient et à partir de sa propre cécité. Et donc, le fait de choisir pour clôturer une époque de sa carrière, de prendre cette personne, d'en faire une icône qui a les yeux fermés mais qui est debout, nous interroge sur notre propre cécité vis-à-vis de ce qui se passait réellement en Italie à cette époque-là.
Alors justement, il y a deux questions qu'on pourrait vous poser, Charlotte Moge. Bah, la première, c'est effectivement la bascule. Hein. En 1992, effectivement, il y a quelque chose qui se clôt. Et ce que dit Scarpinato, c'est que d'une certaine manière, cette ombre et cette lumière, c'est le fait que les commanditaires véritables de l'assassinat de Falcone, et puis ensuite de Borsellino 100 jours plus tard, on ne les connaîtra jamais vraiment. On est aussi, du point de vue de l'histoire politique, à ce point de bascule.
Oui, c'est-à-dire que ça coïncide avec cette période de la transition républicaine, où il y a eu beaucoup de procès quand même qui ont été faits justement sur ce qu'on a appelé la trattativa Stato-Mafia, c'est-à-dire qu'on est dans une période où entre le massacre de Capaci, donc, qui cause la mort de Falcone, et celui de Borsellino, 57 jours plus tard, on a des négociations qui sont lancées entre certains carabiniers, certains éléments des carabiniers et une partie de Cosa Nostra. Donc, il y a eu beaucoup de procès en cours. Il n'y a pas eu le fin mot de l'histoire, en tout cas d'un point de vue judiciaire. L'aura-t-on d'un point de vue historique? Je n'en sais rien, puisque vérité judiciaire, vérité historique, c'est quand même des terrains qui sont là un petit peu différents, un petit peu glissants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette photo, elle symbolise vraiment l'entrée, on a beaucoup parlé de résistance, l'entrée en résistance d'une population et dans lesquelles vraiment les femmes vont avoir un rôle très actif à Palerme. Donc ce fameux Ora Basta, oui. Hein, c'est un des principaux slogans du comité des draps, le Comitato dei Lenzuoli. Donc c'est un groupe de femmes c'est une femme avec un passé militant, hein, sociologue, enfin voilà, quelqu'un qui fait partie quand même d'une profession engagée, qui, face à la détresse de sa fille et qui lui dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On avait l'impression que c'était la fin du monde. C'était un monde qui s'écroulait.
Alors, Laura, c'est aussi le nom, c'est important, du journal dans lequel, pendant très longtemps, Laetitia Battaglia, qui est un journal militant, publié d'investigation, c'est important de le souligner, a publié ses photos.
Oui, Laura, oui. Mais Laura s'arrête en 92. Oui. Donc, voilà. Aussi, on a la fin de cette tradition de journalisme d'investigation qui avait énormément éclairé la population sur les liens mafia politique à Palerme. Donc, avec la fin de l'Ora, on a aussi la naissance donc d'un nouveau mouvement citoyen dans lequel les femmes vont avoir un rôle clé. Et donc, avec le fait d'afficher des draps blancs, encore là, l'ombre et la lumière, hein, des draps blancs avec des slogans écrits en noir dessus, du type « Falcone vit toujours, maintenant ça suffit ». Voilà. Et le fait de revendiquer ce rejet de la mafia sur la place publique, ce qui était vraiment une rupture de l'omerta et quelque chose de très fort.
Cécile Allégrin.
Oui, en fait, j'en reviens à Laetitia, puisque en fait, à ce moment-là, pile à ce moment-là, Laetitia a fait un choix, déjà depuis quelques années, en fait, de rejoindre Leo Luca Orlando, le maire de Palerme, qui est multipartite, enfin, qui propose une junta multipartitique, mais qui à l'origine est un démocrate chrétien. Et donc, en fait, elle s'est engagée en politique. Et à ce moment-là, elle va créer un journal qui s'appelle Mezzocello, qui est, je pense, le premier journal féministe en Italie, qui parle donc de la moitié, l'autre moitié du ciel, donc les femmes. Et c'est ce qui explique aussi cette veine de Laetitia qui la ramène constamment au féminin, à la photographie, à la dénonciation des dernières parmi les dernières, donc des femmes du peuple qui sont complètement oppressées, étouffées par la misère, aux petites filles qui contraintes de grandir trop vite, à des femmes qui vont figurer le combat à venir pour Palerme et pour l'Italie en général. Elle est pionnière en fait, elle anticipe les mouvements.
Walter Guadagnini, vous évidemment comme commissaire de la rétrospective Laetitia Battaglia dont on parlait et puis aussi auteur du catalogue et de la monographie, vous voyez ces grands thèmes et en particulier c'est très impressionnant de combien Laetitia Battaglia a été la photographe, alors on peut dire des rues, des petites filles dans les rues, la fameuse petite fille avec son ballon, mais aussi c'est très important de le dire à ce moment-là et un peu plus tard, notamment des hôpitaux psychiatriques à Palerme.
Oui, c'est une partie importante de sa vie et de son travail. Il faut toujours rappeler que vie et travail pour Laetitia Battaglia sont toujours unis. C'est impossible de les diviser. Et donc, ça a été une partie importante. Elle a vécu avec ces malades, ces gens. Elle les a photographiés. Elle a eu une relation très étroite avec eux, exactement comme elle avait une relation avec les gens de Palerme et de la Sicile en général. C'est-à-dire qui est partie de sa vie et de sa réflexion sur la vie. Elle a, comme on rappelait avant, travaillé sur soi-même avec la psychanalyse. Elle a travaillé même dans le théâtre.
Oui.
Elle n'a jamais fait quelque chose tout simplement pour le faire, mais ça a été toujours en période d'études et après des mises en pratique de ce qu'elle avait vu.
Et vous parlez vous-même de la théâtralité de sa photographie, hein, ça c'est important.
Oui, c'est très important. On voit la photo de Laetitia Battaglia, une photo très théâtrale. Les assassinats, ce sont toujours des sortes de représentations. Et je crois, pour entrer un moment sur ce qu'on disait avant, qu'en effet, elle a aussi terminé de photographier la mafia parce que la mafia n'était plus photographiable, n'était plus si intéressant du point de vue photographe. Qu'est-ce qu'on photographe maintenant avec la mafia? Les gratte-ciels de Milan, les banques, c'est ça. Aujourd'hui, la mafia, heureusement, il y a moins des assassinats. Mais en effet, c'est ça. Hein.
Il y a quand même
je crois que c'est une partie de sa choix.
Il y a quand même cette photographie extraordinaire où elle prend au vif un assassin qui est en train de lui donner un coup de pied.
Luca Bagarella.
Ouais, qui était vraiment le plus féroce en fait. Enfin, je sais pas si c'était le plus féroce. Enfin, on l'appelait le féroce quoi en fait.
C'était surtout le killer du clan des Corleone en fait. Ouais. C'était lui qui exécutait les basses œuvres et voilà. Et il faut rappeler que c'était l'assassin de Boris Giuliano, le chef de la police, qui avait permis à Laetitia de se faufiler sur les scènes de crime et de se positionner. Parce que quand on parle de théâtralité, il faut rappeler que il y avait avait une façon de faire les photographies qui était très utilitaire et qu'elle, elle choisit en fait des angles qui, toujours en reconnectant avec la théorie du regard de Lacan, forcent les gens à voir,
et notamment,
forcent les gens à se positionner.
Oui, et notamment pour lorsque Boris Giuliano meurt, elle ne va pas le photographier, son cadavre, mais les fleurs sur son bureau.
Ça, c'est un choix. C'est un choix qui n'est pas uniquement de Letizia Battaglia, qui est un choix de tous les photographes à l'époque à Palerme, de ne pas donner à la mafia la satisfaction de voir leur œuvre de mort, et donc de refuser de faire correspondre à un acte criminel une iconographie quelque part. Et donc voilà, de briser cette chaîne-là. Donc quand elle photographie les assassinats à Palerme, elle-même est dans la cécité. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas pourquoi ça se passe dans cet ordre-là, elle ne sait pas toujours à quoi ça correspond, sauf quand c'est des juges, bien sûr, ou des policiers. Mais bon, ça s'inscrit dans une historiographie de la mafia qu'elle ne connaît pas au moment où elle le photographie.
Alors, théâtre de la mémoire, bien sûr, Charlotte Moge, et dire également qu'elle risque sa vie, Letizia Battaglia, qu'elle est directement menacée, elle reçoit des lettres anonymes lui expliquant que si elle continue comme ça, elle va également y passer. Cette question-là, cette question politique, cette question effectivement de son engagement total en fait dans cette cause, comment vous l'inscrivez dans l'histoire longue de ce que vous appelez les martyrs, justement?
Alors, le rôle de Laura dans la prise de conscience citoyenne de ce qu'était la mafia a été absolument capital. Donc, on a parlé de résistance, bien sûr, mais elle était militante, quoi. C'était un journal qui était proche du PC, donc a longtemps été financé par le PC, mais c'était vraiment un journal d'investigation, mais un journal militant. Parce qu'à l'époque, l'autre journal local, c'est le Giornale di Sicilia.
Oui.
Et le Giornale di Sicilia, les gens qui sont les rédacteurs en chef de ce journal sont, ils font exprès de ne pas montrer la violence. Donc, on a quelques lignes, page 32, il y a eu quelqu'un qui a été assassiné à tel endroit. Mais il n'y a pas de visualisation de cette violence. Laura fait le choix de montrer. Donc, c'est pour ça que le service photographie augmente. Et pendant toute cette année 82, qui est vraiment le point culminant de la guerre de mafia, on a un décompte du nombre de victimes et on a le fameux 100, quand on arrive à la 100e victime de l'année en août, où on a vraiment ce canon de lupara, de fusil à canon scié typique, l'arme typique de la mafia qui marque le chiffre 100.
Amico, se da voi tu lo palermatano.
Proprio una cosa, e io con chi ho l'onore da parlare?
Con Rocco Calabrese.
Ah, e dovete dirmi qualcosa?
Sì, porto un'ambasciata per continuare a prati. Fammi! Fare legge in da sta parte, da chi sta posti gente rispettata, ondi l'onori e leggi l'onorata, ondi non si perdona infamata, non eri malandrino ma giocatori, non eri camorrista ma delinquenti, volisti usando un povero innocenti. Che assassinaste tu senza pietà. Sangue chiama sangue, e tu ora non vali più niente. A vite non innocenti, ora la paghi tu. A vite non innocenti. Allora c'è un sangue mio che chiama la vendita, sa mano tua che mano malritta,
pa corpa migliorano spara più. Sangue ti ama sangue, e tu ora non vali più niente, la vita non senti, ora la paghi tu, per chi su te le mani.
J'ai la force de poursuivre mon travail. Je ne trouve de lueur que dans ces petites filles aux yeux cernés, croisées au détour d'une rue. Elles ont l'âge où les rêves suspendus se brisent à tout moment sur la réalité. Elles semblent collées au mur. Je sais que ces petites filles, c'est moi. La petite fille que j'étais à 10 ans, je ne cesserai jamais de la photographier. Parce qu'elle seule porte un espoir pour l'avenir.
Extrait de Laetitia Battaglia, photographe des années 200, documentaire de Cécile Allégra qui est avec nous. C'est important ce moment aussi, quand elle a 10 ans, elle commence à sortir et puis il y a un exhibitionniste qui qui l'agresse et son père dit ben tu sortiras plus en fait. Et oui. Donc elle ne cessera après, ensuite, de photographier ces jeunes filles de 10 ans, c'est-à-dire de l'âge où en fait elle... devait regagner sa liberté.
C'est surtout un âge où on forme des rêves pour l'avenir. Donc c'est l'âge de la prépuberté, c'est l'âge où on n'est pas encore complètement femme et où il y a une forme d'innocence qui se joue encore dans cet âge-là. Et elle, pour elle, la violence de cet enfermement, puisqu'il l'enfermera chez les sœurs, qu'il y sera sévèrement maltraité, elle ne pourra s'en échapper qu'en épousant un homme, donc violentée par un homme, enfermée par un homme, et finalement sortie de cet enfermement par un mariage. C'était un peu le destin des femmes de son époque. Et pour Laetitia a toujours combattu pour sa liberté et la liberté des autres femmes. Donc c'est un moment clé qui se retrouve dans sa photographie, puisqu'elle essaye vraiment de montrer à la fois le destin terrible qui est réservé aux femmes du peuple et aux filles du peuple, oui. Hein, puisqu'il y a des images de filles mères avec des bébés qui pourraient être leurs frères en fait.
Et puis cette image terrible de la mère donc il y a un nourrisson, oui, qui a été dont le doigt a été rongé par un rat.
Oui.
Donc ça, c'est effectivement Charlotte Moge, on comprend bien, vous êtes une historienne, voilà, de la lutte contre la mafia et de sa résistance et de sa mémoire, mais tout cela s'inscrit dans un contexte, hein, qui est le contexte de l'Italie politique et de l'extrême misère dont elle avait pour objectif de décrire la chronique. Et c'est important aussi, cette notion de chronique.
Oui, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une photographie absolument militante qui va justement montrer cette misère, montrer cette dégradation du Sud qu'on ne voulait pas voir, parce que on est focalisé sur le développement du Nord. Après le triangle industriel, on est focalisé sur les districts industriels, donc le développement du Nord-Ouest, du Nord-Est du pays. Et ce décalage croissant, ce fossé entre le Nord et le Sud, il continue à avoir lieu. Et malheureusement, pourquoi est-ce que c'est important de montrer cette misère? C'est parce qu'aussi, une des seules, forces de modernité qui avait à cette époque, je parle de modernisation des logements, Eh ben, c'était les entreprises mafieuses, parce que c'était par le blanchiment, par les liens avec la politique, que toutes les nouvelles infrastructures qui ont été construites à Palerme pour blanchir l'argent de la drogue sont aussi des, paradoxalement on va dire, mais la restructuration, la restauration des quartiers qui étaient profondément dégradés. Donc on est aussi toujours dans cet entre-deux. Donc montrer la misère, c'est aussi une manière de dénoncer ça.
Walter Gualaghini, vous êtes avec nous depuis Turin au téléphone. Vous avez été, je l'ai dit, commissaire de ces rétrospectives. Et évidemment, ce qui frappe dans l'œil aiguisé, acéré de Laetitia Battaglia, c'est combien elle fait, oui, aussi une chronique urbaine. Comment, d'une certaine manière, la valeur documentaire, esthétique et documentaire de cette photographie.
Oui, absolument. Elle travaille dans la ville. Elle raconte qu'est-ce qui se passe dans la ville. N'oublions pas qu'il y a, oui, la misère, disons, de laquelle on a parlé, mais il y a aussi la noblesse qui est vue avec un regard ironique, très ironique, naturellement. On comprend très bien où Laetitia Battaglia se situe. Elle se situe de la part de la pauvreté des gens qui vivent dans ces terribles lieux au centre-ville. C'est très important aussi de dire que c'est au centre-ville, et c'est important de dire aussi qu'il y a une grande humanité, mais naturellement elle sait très bien que c'est aussi le lieu où la mafia trouve ses nouveaux élèves et élèves. Donc c'est tout qui est au même plan sur dans ce travail, dans le travail de Laetitia Battaglia, et en effet en plan toujours politique.
Alors, regarder, ouvrir les yeux, voir, raconter pour résister, peut-être même aussi pour se venger. Écoutez Roberto Saviano, je le citais tout à l'heure pour son dernier livre Giovanni Falcone, et c'était le 8 février 2025 au micro de Quelle Époque.
À un certain moment de ma vie, je pensais que mes mots auraient changé le monde. Et ça, c'était un péché d'ambition. Je pensais que mon public aurait été énorme, international, et que j'aurais pu montrer au monde entier que je pouvais éclairer une réalité internationale et que ça aurait pu changer les choses.
La mia vita è stata maciullata completamente.
Petit à petit, ma vie a été détruite complètement. Je ne suis pas arrivé à garder pratiquement rien de ma vie.
E mi è rimasta la vendetta.
Et tout ce qui m'est resté, c'est la vengeance. Ce livre est une vengeance pour moi. Dire à ceux qui voulaient m'arrêter, je suis là. Je suis là.
Questo libro, gli assassini di Falcone,
les assassins de Falcone, les frères Graviano, ont demandé que ce livre ne soit pas vendu dans les librairies. Ils m'ont écrit cela à la main de la prison pour montrer que c'était vraiment eux qui le demandaient. Et quand j'ai reçu cela, j'en étais fier.
Alors on parle de fierté héroïque, de résistance, il y a tout ça chez Laetitia Battaglia, mais il y a tout ça, Cécile Allegra, dans un groupe, dans un collectif, c'est important de le dire aussi, c'est un engagement, une mobilisation qui est politique, parce qu'elle est collective.
Oui, et il faut dire qu'elle prend la direction donc du service photo de l'Ora en 74, donc première femme italienne à diriger un service photographique dans tous les médias, voilà, confondus. Et elle va le faire d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle va créer un collectif, bon, on les surnomme la tanière, mais ils ne vont pas signer chacun sous leur nom. Ils vont signer collectivement comme le groupe des photojournalistes de l'Ora. Donc, il va y avoir ensuite, plus tard, aujourd'hui encore pour ses descendants, un très gros travail de réattribution des clichés à chaque membre de ce collectif. Mais c'est fait pour deux raisons. La première, c'est une façon de se protéger contre les attaques. Donc de ne pas être, c'est pas ad personam, on peut pas identifier exactement qui cibler s'il faut attaquée. La seconde, je pense que c'est aussi pour se protéger en tant que femme,
oui.
Pour pouvoir travailler dans un milieu d'hommes. Mais Laetitia va conserver toute sa vie cette notion du collectif jusqu'à l'ouverture du Centre pour la photographie à Palerme. C'est-à-dire qu'elle ne pensait que comme ça.
Elle ne pensait que comme ça, mais évidemment, pendant ce temps-là, Charlotte Moche, ben, l'histoire, elle continue. Et ce moment dont vous êtes l'historienne, qui s'ouvre avec 1992, il se poursuit. On écoutait le juge Scarpinato dans votre documentaire Cécile Allégra dire ben voilà, les vrais commanditaires, on les a pas encore trouvés, mais on les cherchait. On les cherchait quand même, et c'est lui qui a l'idée de perquisitionner les archives Laetitia Battaglia, 500 000 photos, pour trouver de quoi compromettre, ou en tout cas dévouer les mensonges, notamment de Andreotti, qui est l'insubmersible chef du gouvernement de l'Italie.
Oui, oui, c'est absolument... Moi, je n'étais pas au courant de cette anecdote, que c'est dans l'archive de Laetitia Battaglia qui a été trouvée cette photo. Et c'est quelque chose, c'est vraiment très intéressant.
On voit Andreotti avec un mafieux.
On le voit avec voilà, Nino Salvo, dont la mafiosité, on va dire, avait été prouvée. Oui, donc cette période qui s'ouvre avec les stragi, avec les massacres, va vraiment, en fait... On a un changement au niveau de l'antimafia, puisqu'on va avoir une structuration du mouvement, on va avoir de nouvelles fondations qui vont apparaître, comme la fondation Falcone, mais on va avoir surtout ce réseau Libera, qui apparaît en 1995, lancé par un prêtre qui s'appelle Don Luigi Ciotti, dont l'ambition est de fédérer la communauté des victimes des mafias. Et oui. C'est là que c'est très important, c'est-à-dire qu'on sort de la seule Sicile, hein, même si la Sicile est un laboratoire à tous les égards, mais là on va sortir de la perspective sicilienne pour unir cette communauté de victimes de toutes les mafias. Donc Libera va donner une dimension nationale à l'antimafia et en faisant reposer son action sur deux éléments fondamentaux qui sont la mémoire et l'engagement. Et du coup, on a d'un côté une journée de la mémoire qui va être créée tous les 21 mars, qui a lieu dans une ville différente, donc pour célébrer la mémoire des victimes et voir comment en célébrant cette mémoire, en célébrant les valeurs qui ont guidé leur engagement, comment est-ce qu'on agit concrètement d'un point de vue citoyen contre les mafias. Et du coup, ces deux piliers, hein, oui. Et ils reprennent, du coup, Don Ciotti reprend le slogan qui était né, qui est imprimé sur les fameux draps en 92, « Vous ne les avez pas tués, leurs idées marchent sur nos jambes ». Donc
oui,
on a
que...
vraiment ces deux jambes qui sont la mémoire et l'engagement. Qui continue.
Ces deux jambes, et puis aussi les deux jambes du point de vue de la lutte contre la mafia à Palerme, de l'engagement citoyen et de la compréhension, au fond, de la dimension internationale de l'hydre. Il faut quand même pas oublier que Falcone et Borsellino, c'est ça que dans le super pool des contre la mafia, des juges, c'est d'abord comme ça qu'ils ont enquêté, c'est-à-dire par les liens financiers avec notamment les milieux du crime aux États-Unis.
Mmh. Oui, oui, bien sûr. Bah, toute la fameuse méthode Falcone, qui donc repose sur le fait de chercher l'argent, de suivre l'argent et de suivre du coup le blanchiment, les réseaux de blanchiment, qui vont donc montrer la dimension complètement internationale. C'est là aussi qu'on perd cette dimension locale du ils se tuent entre eux, c'est pas très grave, pour comprendre que les mafias sont présentes à l'extérieur des territoires d'origine, donc en particulier dans le Nord-Ouest, puis dans le Nord-Est, et surtout à un niveau international. Mais là aussi, la mémoire et l'action de Libera, en réalisant cette commémoration nationale chaque année dans des villes différentes, commémoration qui a été institutionnalisée par le Parlement en 2017, donc on est vraiment une initiative citoyenne qui devient nationale, va aussi pointer les projecteurs sur... par exemple, le Nord. La première journée de la mémoire à Milan en 2010, elle est très importante parce qu'elle coïncide avec... c'est l'année de l'opération Crimine Infinito qui révèle la présence de l'Andrangheta, la mafia calabraise.
Et Laetitia Battaglia suit, d'une certaine manière, cet engagement jusqu'au bout, jusqu'à sa mort en 2022. Et notamment, vous avez évoqué son nom avec cette extraordinaire maire de Palerme, Leoluca Orlando, Cécile Allégra.
Oui, alors après, quand les massacres se produisent en 92, son engagement va changer. Mais il faut dire qu'elle s'était engagée dès 86 comme assesseur à l'écologie, ce qui à l'époque était inédit. Donc elle va contribuer à reverdir Palerme, à replanter notamment les allées de palmes du bord de mer. Et c'était sa façon à elle, disons, elle disait « je voulais planter des fleurs au milieu du béton du sac de Palerme », puisqu'on l'appelle comme ça, la main basse de la mafia, pour construire des immeubles là où avant il y avait des jardins.
Osumascioso e scarcagnoso, in terra calabrisa se fermano, e cascavaro un profondo fosso, e l'arbro da scienza ci piantaro, attorno semenaro rose sciuri, e poi dettaro un codice sociale, un codice gli uomini donuri. Sono battiati in to locali. Non tutta gente ci può dire sì, ma solo tu veramente vali. Cuori invece pronto a soffrire e canuscivo a casa penali. Dalla galera cominciavo la scuola e tutta l'arte si poteva imparare. E quando ne esci ci volia ancora a prove sangue che faci tremare. Cerca permesso se tu vorrai sì, e se ti dinno sì non ti fermare, ma stai attento chi si può morire, e chi parre tu non si può tornare. Cerca permesso se tu vorrai sì, e se ti dinno sì non ti fermare, ma stai attento chi si può morire. Non si può tornare e chi parre tu no si può tornare.
Vous connaissez Mathieu Pot-Bonneville, hein, bien sûr, directeur du département culture et création du Centre Beaubourg. Il nous envoie des cartes postales. Ben voilà, on a relevé le courrier, on en a une.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, c'est exaspérant, n'est-ce pas? Les selfies, je veux dire. Pas un lieu remarquable, pas un panorama préservé pour y échapper. Taj Mahal ou crique secrète, Tour Eiffel ou Ermitage, toujours, lorsque vous arrivez, quelqu'un est là, qui tord le cou en levant haut le bras, sollicite concurremment son épaule et ses cervicales pour s'inscrire en contre-plongée au premier plan du cliché, où de chaque côté de l'ovale du visage, que l'objectif déformera un peu, n'apparaîtront plus que des fragments de paysage. À moins qu'on vous demande, à vous, dans un pâteux anglais globalisé, d'immortaliser ce couple ou cette famille dans une posture avantageuse. Et vous accepterez, Patrick, vous êtes un homme poli. Vous vous rendrez complice de ce geste qui, au premier abord, semble abolir la considération du monde au profit du plaisir douteux de s'y reconnaître en lui tournant le dos. C'est exaspérant, n'est-ce pas? Toutefois, il y a une phrase du musicien John Cage qui est devenue l'une de mes maximes favorites. « Quand un bruit te gêne, disait Cage, quand un bruit te gêne, écoute-le. » Ce qui vaut pour le son aiderait peut-être avec ces images. On regarderait mieux les selfies. Et plutôt que de se plaindre en masse de cette pratique de masse, on se demanderait s'il n'y aurait pas là comme une tentative collective, obscure à elle-même, confuse, tentative non pas pour faire du monde entier le décor de notre narcissisme, mais pour attester de la réalité du monde et des images qu'on en saisit par le geste de s'y inscrire soi-même à titre d'indice. Je veux dire, il en irait des selfies comme de ces photographies que les ravisseurs adressent aux autorités, où la personne kidnappée tient à deux mains un journal dont l'édition permet de confirmer la date du cliché. À cette différence près que, en l'espèce, de manière symétrique et inverse, cette fois c'est l'être humain qui témoigne pour la réalité de son décor, leste d'un poids d'actualité le monument devant lequel il pose, ajoute par sa présence, certes envahissante, aux colonnades mille fois vues le codicille d'un « cela était ». Comme on parle de preuves de vie, les selfies seraient des preuves de monde, gagées sur le corps qui les prend, sur fond de disparitions inquiétantes et de négociations précaires, sans certitude que le réel pourra être rendu sain et sauf à l'affection des siens. En suggérant ainsi qu'il faut des vies, pour redonner épaisseur aux images, la pratique frivole, touristique, ensoleillée des selfies vaut peut-être comme l'étrange hommage que l'humanité rend sans le savoir à celles et ceux qui s'efforcent de documenter autour d'eux la survie en courant le risque permanent d'être tués. Scènes obscures et charbonneuses, visages ombrés par la certitude anticipée de leur disparition, images si visiblement liées aux yeux qui les regardent que les fauteurs de massacre s'efforcent de refermer et les unes et les autres, de faire régner l'idée qu'il n'y a rien à voir en effaçant le fait qu'il y eut là quelqu'un. Ainsi, la photographe Laetitia Battaglia fut-elle sa vie durant menacée pour les images auxquelles elle liait son destin, comme furent emportées autour d'elle d'autres photographes, tant d'acteurs et de témoins pour que l'on ne voit rien du labeur quotidien de Cosa Nostra. Ainsi, pour avoir témoigné du génocide en cours, la photographe gazaoui Fatma Hassouna fut-elle, le 16 avril 2025, assassinée avec 10 membres de sa famille par une frappe ciblée de l'armée israélienne, comme 156 autres journalistes et professionnels des médias palestiniens. Au lendemain de la sélection au festival de Cannes du film Put Your Soul on a Hand and Walk, dont elle était la figure principale. De Fatma Hassouna, le réalisateur Sepideh Farsi dit « Mon film est une fenêtre, elle était mes yeux ». Le but de son assassinat me paraît clair, Patrick, que de Gaza ne nous parviennent plus ni portraits, ni paysages.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Comment se laver de tout ce sang? C'est vrai que Laetitia Battaglia, en 1992, était au bord de désespérer, au bord de renoncer. Elle est partie en voyage, elle était au Groenland, aux États-Unis, ailleurs, et puis elle a recommencé. Et elle a recommencé différemment, on l'a entendu. Walter Guadagnini, les toutes dernières photos, c'est-à-dire celle où elle reprend cette archive de la lutte contre la mafia et elle les met en surimpression avec d'autres plus récentes, avec des corps nus de femmes. Comment vous les voyez? Comment vous les avez exposées?
Mais je pense en effet on a exposé surtout les quelqu'un des dernières nues, mais je pense que ce soit la conclusion très logique et cohérente de ce que Laetitia a toujours fait. Elle a toujours dit en effet j'ai photographié la mort parce que c'était mon métier en effet et je devais le faire, mais j'ai toujours cherché la vie. Et donc, après 92, elle est allée chercher la vie dans des autres lieux. Elle l'a cherchée dans les jeunes filles encore et dans les corps des femmes. Je pense que cette idée du corps des femmes comme lieu de la libération, c'est un très, très important de la poétique générale de Laetitia. Et qui est en effet, encore une fois, ce peut être lié à l'image de Rosario Schifani, parce que c'est toujours cette idée d'une duplicité.
Oui.
Non, on parlait avant, même en écoutant Saviane, on pensait à Laetitia qui disait qu'elle avait la rage et l'amour. C'était la rage et l'amour.
C'est ça.
Et donc, c'est toujours ça.
C'est ça. Où est l'amour? Il n'y a pas d'amour. Je ne leur pardonnerai pas tant qu'ils ne pardonneront eux-mêmes rien. Cécile Allégra, évidemment, on revient à ce corps frêle et fort de Rosaria, et d'une certaine manière, en surimpression à la toute fin de sa vie. C'est ça que donne à voir également Laetitia.
Oui, il faut voir qu'il y a des mises en abîme qui sont quand même surprenantes, parce que en réalité, donc les assassinats qu'elle photographie sont des corps d'hommes, les magistrats qui mènent l'enquête sont des hommes, les policiers qui mènent l'enquête sont des hommes, et donc
ceux qui meurent dans les escortes,
escortes. Bon, là, il y a une femme en l'occurrence, ouais. Francesca Morvillo, mais la femme de Falcone. Donc en fait, et elle, c'est une artiste qui s'en sert dans un, quand même, rappelons-le, dans un contexte d'une Italie excessivement patriarcale, où les femmes ne peuvent pas trouver pleinement un lieu d'expression. Et donc il y a cette histoire singulière de Laetitia, d'ailleurs, qui se retrouve, je voudrais le dire aussi, dans ces entretiens où on sent vraiment le trauma. Et de ce point de vue-là, Laetitia ne se cachait pas. C'était une femme très traumatisée par ce qu'elle avait vu, par ce qu'elle avait dénoncé, et dont le trauma correspond au trauma italien. Encore une fois, une surimpression historique, vraiment...
Une psychanalyse à ciel ouvert,
incroyable,
en fait.
Vraiment. Ouais. Voilà, on était tous dans le même état qu'elle. Alors elle, évidemment, plus directement, puisqu'elle était sur le devant de la scène, mais elle va incarner comme ça, tout au long de sa vie, une série de combats sociétaux pour l'Italie, et de ce point de vue-là, c'est une pionnière et c'est une femme dont on a trop longtemps oublié la vraie portée de son travail. C'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui les générations redécouvrent à travers le centre de la photographie.
Oui.
Et sa liberté de parole qu'on voyait parfois dans ses interviews, elle essayait de se contenir, aujourd'hui inspire de nouvelles générations.
Et ces dernières photographies, effectivement, les cadavres anciens et les femmes nues souvent qui vont à la mer pour se laver de ce sang versé en surimposition. Charlotte Moge, en fait, ça reprend aussi des grands thèmes, une grande iconographie, une grande théâtralité de la lutte contre la mafia de ces années de bascule de 92.
Oui, c'est ça. C'est que je disais tout à l'heure que les femmes ont été vraiment protagonistes de la lutte anti-mafia, des renouvelles. On a renouvelé le répertoire d'action collective, notamment les femmes. Et il y a eu des chaînes humaines pour protéger les palais de justice. Et il y a eu surtout cette initiative de grève de la faim sur la place centrale de Palerme, où vraiment ces femmes faisaient cette grève de la faim avec un écriteau autour du cou en disant « Notre corps qui produit la vie ne peut accueillir ce nutriment de mort qu'est la mafia. » Donc, je jeûne contre la mafia.
Écoutons là une dernière fois l'interview de Laetitia Battaglia. C'était à Toulouse le 21 septembre 2016.
Pour une femme, photographier les mafiosi, c'était une grande honte pour la mafia. Une femme qui fait la photographie. J'ai eu quelques menaces. J'ai eu beaucoup de peur quelquefois. Maintenant, je le dis avec légèresse, mais c'était compliqué. C'est un cadeau, lutter. La possibilité de lutter sans mourir, c'est un grand cadeau. Et les photographies, peut-être, sont bonnes, qui disent beaucoup, je suis aimée, peut-être on peut dire que j'ai eu un succès, mais ça, je m'en fous. Parce que ce que je voulais, c'était pas le succès, c'était le changement. C'était qui mes neveux, les fils de Ménévé trouvent une réalité différente.
Eh ben, on se quitte sur le générique de Gomorra. C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Cécile Allégrin, Walter Guadagnini et Charlotte Moge. Les références de vos livres, de vos parutions, de vos documentaires sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie, Catherine Gallet, Anouk Minaudier et Lilou Maupetit, à la prise de son Thomas Guinegang et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.
Mâna speranță, pe capa rimana, neguri mâna speranță, pe capa rimana. Mâna e zadă că sta cava, azulă pe chirimana, neguri mâna speranță, pe capa rimana, neguri mâna speranță, pe capa rimana, neguri mâna speranță, pe capa rimana. Mâna e zadă că sta cava, azulă pe chirimana. Sacu mangă ghi sunt găsă, strace la nama turnă ca, strace pe tu te urnă ca, și faci și oană nu-mi dormă. Guardă-mi faci și oană de șfungă pa, rage m-a bufet bumbă, se planci aici să ne sonă mina, și gata fa nu. A vita facile, andam frasce, tutto squaglierin dall'asci. De vodo non m'ha capace, de vodo non trova pace. Voglio nata prospettiva, prosperità attiva. Guarda figlio ma mattina, pronta per nato tu stile. Mastina, mastiva, stiva. E castiga, stirp, no vindo festina, te stira. Istiga rivoluzione, ogni persona. Voglio benessere, in da successo. Non voglio comprensione. Molto te fottuto buona, o brutto fa tutto rumore. O lutto t'aiuto t'amore, ma sfrutta, mi sfrutta l'umore. C'ha dura speranza. Che creatura rinda panza, posso solo guardar nanza, rete carindo vacanza. Neguri mâna speranza, pe campa rimana, neguri mâna speranza, pe campa rimana, neguri mâna speranza, pe campa rimana. Mâna e zadă che sta cava, sulla băchi rimana. Neguri mâna speranza, pe campa rimana, neguri mâna speranza, pe campa rimana, neguri mâna speranza, pe campa rimana. Mâna e zadă che sta cava, sulla băchi rimana.